forum di studio kala forum di studio kala
Il est 18h15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre écoute au programme du studio Kalangou. C'est l'heure de votre rendez-vous de débat radiophonique sur des questions d'actualité ou de société. Le forum du studio Kalangou que vous suivez chaque jour du lundi au vendredi de 18h15 minutes à 19h en français et les samedis et dimanches de 17h15 minutes à 18h respectivement en Hausa et en Zarma via les 38 radios partenaires qui diffusent nos programmes dans toutes les 8 régions du Niger. À l'approche des examens de fin d'année et en particulier du baccalauréat, dont les épreuves écrites démarreront sur l'ensemble du Niger le 10 juillet 2019, nous vous proposons ce soir comme thème la dissertation littéraire « Comment ça marche ?». Exercice d'argumentation organisé nécessitant une bonne maîtrise de la langue de Molière, mais aussi l'assimilation d'une bonne méthodologie. La dissertation en français fait partie des épreuves du baccalauréat dont la maîtrise favorise la réussite des candidats, surtout dans les séries littéraires où cette épreuve fait partie de celles qui offrent le plus de coefficients. Que signifie une dissertation? Qu'est-ce qu'une dissertation littéraire? Quels sont les différents types de sujets de dissertation littéraire susceptibles d'être apportés au baccalauréat? Existe-t-il une méthodologie uniforme pour faire une dissertation littéraire? Quels sont les atouts qu'un élève doit avoir pour réussir une dissertation littéraire? Comment dégager une problématique en dissertation littéraire? Comment élabore-t-on le plan d'une dissertation littéraire? Qu'est-ce qu'une thèse dans une dissertation littéraire? Que signifie l'antithèse? Que propose la synthèse? Quel est le rôle des connecteurs logiques ou mots de liaison dans une dissertation littéraire? Quels conseils donner aux candidats à l'approche de cette session 2019 du baccalauréat au Niger qui enregistre plus de 64 000 candidats cette année? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité dans ce studio deux enseignants de la langue française au lycée. Il s'agit de M. Soumane Chamsou, enseignant au complexe d'enseignement général sur SESAM de Niamey. M. Soumane Chamsou, bonsoir.
Bonsoir.
Et M. Joseph Aboubouka, enseignant de français également dans un lycée privé à Niamey que nous avons en ligne. M. Joseph Aboubouka, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Monsieur Soumane Chamsou, que signifie au sens large une dissertation et en particulier la dissertation littéraire puisque nous avons d'autres formes de dissertation telles que la dissertation philosophique, juridique, etc.
La dissertation au sens large, c'est un débat sur une opinion donnée. C'est un exercice scolaire qui consiste à la confrontation de plusieurs thèses, le plus souvent une première thèse à laquelle il faut apporter des nuances, des dépassements ou bien des limitations.
Une thèse, ça veut dire une idée soutenue.
Une opinion.
Une opinion.
Une opinion. Mm-hmm. Donc, c'est une affirmation gratuite, une affirmation d'un auteur, d'un penseur, qui semble être une règle générale imposée à l'esprit général. Alors, il s'agit de comprendre cette pensée et de voir si les contours de cette pensée et de l'unicité. De montrer quand même qu'on peut la remettre en cause. La dissertation, elle n'est pas seulement littéraire, mais la dissertation littéraire, elle est spécifique aux autres dissertations. Il y a une dissertation en philo, il y a une dissertation en histoire, une dissertation en géographie, dans le domaine académique. Il y a dissertation dans plusieurs domaines, en sociologie, en linguistique, etc. Mais la dissertation, ça veut dire que dans tous ces domaines-là, il s'agit de faire un débat sur une opinion, sur une thèse. La dissertation littéraire, comme le nom l'indique, littéraire, basée sur des domaines spécifiques. On ne parle pas, même dans l'enseignement, certains confondent dissertation et discussion. C'est-à-dire, il y a un exercice similaire qu'on appelle culture générale souvent, qu'on appelle discussion. Et la discussion parle dans tous les domaines, domaine général, oui, sur l'actualité. Alors que la dissertation a pour domaine l'art ou la littérature. C'est seulement lorsque le domaine aborde l'art, la littérature et ses sous-parties, c'est-à-dire romans, théâtre, nouvelles, contes, poésie. Quand le domaine abordé, c'est l'écrivain, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est l'inspiration. C'est en cela qu'on parle de dissertation littéraire. Donc la dissertation littéraire, elle est spécifique aux autres parce que le domaine est cadré. De la même manière, la dissertation philosophique, le domaine ne sort pas de la philosophie. Donc une dissertation, ce n'est qu'une discussion dans un domaine précis. Donc ça peut être littéraire, philosophique, sociologique, etc. Donc voilà en réalité la dissertation littéraire.
Monsieur Joseph Aboubakar, quels sont les différents types de sujets de dissertation littéraire susceptibles d'être apportés au bac? On voit par exemple que beaucoup viennent souvent avec une citation tirée d'un livre, comme a eu à l'expliquer Monsieur Souman Chamsou. Est-ce le cas pour tous les sujets de dissertation littéraire?
Merci de m'avoir donné la parole. La dissertation littéraire est une argumentation portant sur un problème littéraire. Et généralement, le candidat s'appuie sur des œuvres littéraires, comme mon collègue a eu à le dire. Donc, le sujet de dissertation est composé généralement d'une citation suivie d'une consigne, où ça pourrait être également une question directe posée au candidat. Et pour les différents types de sujets, ils sont nombreux. Tout dépend des manuels pédagogiques, des professeurs. Mais les grands types de plans de dissertation sont les suivants. Le plan d'abord dialectique, c'est le plan le plus connu. Le plan thèse, antithèse, synthèse. On a le plan également thématique. On a le plan explicatif. Le plan explicatif, c'est quand on invite le candidat à étudier le bien fondé d'une affirmation. Le plan explicatif, il n'y a pas d'antithèse pour le plan explicatif. Il n'y a pas de thèse, antithèse. Le plan explicatif, c'est comme le bac 2017, quand on dit montrer, justifier, expliquer, commenter, ça c'est le plan explicatif. On a le plan analytique. Le plan analytique, généralement, porte sur des sujets d'actualité ou des sujets de société. Par exemple, si on dit la société nigérienne souffre des problèmes de mendicité, des enfants, des femmes, des hommes valides, on peut dire, par exemple, montrer les causes de ce fléau, les conséquences et les solutions. Là, c'est un plan analytique. Voilà. Et on a également le plan, j'ai parlé de tout à l'heure, le plan thématique, je n'ai pas expliqué. Si on dit quelles sont les fonctions de la littérature, si on dit la littérature, c'est un thème à ce niveau. Là, c'est un plan thématique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un thème où on peut avoir un ensemble de thèmes. On a également le plan comparatif. Là, le plan comparatif invite à comparer deux faits, deux notions, deux opinions, ça peut être trois aussi, notions, on compare. On fait ressortir les points de divergence, les points de convergence, et on tire une synthèse. Donc on construit à ce niveau le plan, le corps du devoir en trois parties. Et par exemple, si on dit comparer roman et théâtre, ou roman, théâtre et cinéma, par exemple, ça peut être deux ou trois notions. On montre d'abord, on commence par des définitions, dès l'introduction, et même dans le développement, on commence par des définitions. On montre les points de divergence, le point de convergence, et ensuite on tire une synthèse. Voilà comment ça se passe. Bon, grosso modo, voilà les différents types. Sinon, il existe d'autres. Il y a des documents, on parle de plans démonstratifs, il y en a, ça dépend. Voilà.
Vous êtes déjà dans la méthodologie, donc est-ce qu'il existe une méthodologie uniforme pour faire une dissertation littéraire par rapport à tout ce que vous expliquez?
Vous savez, tout dépend de la consigne. Il est extrêmement important que le candidat assimile, mémorise les différents types de consignes. C'est important. Mais vous savez, au bac, on est habitué à voir le plan dialectique.
C'est-à-dire thèse, antithèse.
Thèse, antithèse, synthèse. Expliquer et discuter, commenter et discuter, êtes-vous d'accord avec ce point de vue, quelles réflexions vous inspirent, et voilà, il y en a, oui, cette opinion correspond-elle à votre point de vue sur la lecture, c'est juste un exemple. Donc, il y en a beaucoup. Mais ce sont les consignes les plus fréquentes au bac, quoi, les consignes qui exigent le plan dialectique. Mais en tant que tel, le plan uniforme, Je vous ai dit, tout dépend de la consigne. Si c'est le plan explicatif, c'est clair, il n'y a pas d'antithèse. On dit expliquer, c'est tout, on a dû justifier. L'élève n'a pas le droit de faire l'antithèse. Mm-hmm. C'est comme si on dit à un candidat d'aller à Dosso, lui il part à Maradi. Qui lui a dit d'aller jusqu'à Maradi? On dit de s'arrêter à Dosso, c'est tout. Voilà au fait le plan explicatif. On s'arrête à l'explication du sujet, et c'est tout. C'est à partir de la consigne qu'on doit connaître le plan à suivre.
Mm-hmm.
La démarche à suivre dépend de la consigne.
Mmh.
Et c'est clair, et beaucoup de profs le savent, puisque chacun doit suivre sa méthode, ça n'a pas de sens. Mmh. Là, notre matière n'a plus de démarche scientifique. Donc, il faut qu'il y ait une démarche conforme et qui est connue. Voilà, et reconnue par tous les académiciens, les pédagogues.
Mmh. La démarche est donc déjà dans l'énoncé.
Sinon, la méthodologie, elle est connue. Il y a des documents de méthodologie. Mais jusqu'à l'université, on enseigne la méthodologie.
Officiellement, c'est-à-dire que la méthodologie, elle est officielle, elle est uniforme.
Elle est enseignée, elle est officielle, elle se trouve dans le document. Maintenant, tout dépend maintenant du contenu, de la démarche adoptée ou des exemples, des arguments, quoi, le contenu. Tout dépend.
Merci bien. Restez toujours en ligne, M. Joseph Aboubakar. Le temps de prendre M. Soumane Chamsou pour lui demander quels sont les atouts qu'un élève doit avoir pour réussir une dissertation littéraire.
Merci. J'aimerais augmenter par rapport au type de plan.
Mm-hmm.
Ce que le collègue Aboubakar Joseph vient de dire, c'est très pertinent. Je l'appuie. En dissertation littéraire ici au Niger, je pense que on a adopté deux types de plans seulement. Tous les plans dont il a parlé, les plans analytiques, on les voit en histoire géo. Les plans progressifs, on les voit en philo. Ici, on a adopté le plan dialectique et le plan explicatif. Donc, le plan dialectique qui consiste à faire thèse, antithèse, synthèse. Et le plan explicatif qui aussi peut être constitué en deux ou trois parties. La différence avec le plan dialectique, c'est que, comme Aboubakar l'a souligné, il n'y a pas d'antithèse. Mais c'est que c'est à l'intérieur de l'énoncé qu'il y a des thèses. Donc, il s'agit de savoir structurer cette idée et de savoir qu'à l'intérieur de cet énoncé, il y a des thèses. Donc c'est ça le plan. Le plus souvent, lorsqu'on dit expliquer, ou on dit commenter, ou on dit répondre à la question, ça sous-entend qu'à l'intérieur, il y a des thèses. Il ne faut pas que les élèves, parce que certains collègues appellent thèse, plan à thèse unique, ils considèrent que c'est une seule thèse. Il n'y a jamais en dissertation une seule partie. Il n'y a jamais de thèse unique. Le mot thèse unique sous-entend que, comme on a dit, par exemple, il a donné le plan thématique, quand on dit quelles sont les fonctions de la littérature, on parle de première fonction, deuxième fonction, troisième fonction. C'est la même thèse qui est subdivisée.
L'État dispose quand même d'un programme officiel et on voit toujours que le débat est au niveau des scolaires, justement.
Le débat est au niveau des scolaires, non pas au niveau des enseignants qui ont fait lettres. Parce que quand vous avez fait lettres, de la première année à la licence, on vous enseigne cette méthodologie et vous êtes évalué dans cette méthodologie pour pouvoir avoir la licence. Donc ça veut dire que c'est seulement en quatrième année qu'il n'y a pas cette méthodologie. Donc tous ceux qui ont fait lettres, de la première année à la licence, c'est des IV qu'il faut forcément valider pour pouvoir passer. Donc ils ont fait la méthodologie. Là, il n'y a aucun débat, ce sont des cours. La méthodologie est universelle. Aucun enseignant n'a une méthode spécifique à lui. La méthode, elle est enseignée. Quand on sort de l'université, le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, dans l'enseignement, il y a trois écoles. Il y a ceux qui viennent de la sociologie, il y a ceux qui viennent de la linguistique, il y a ceux qui viennent des lettres. Ça veut dire que les méthodes de dissertation en sociaux sont différentes des méthodes en lettres. Les méthodes en linguistique peuvent être différentes. Les méthodes en philosophie peuvent être différentes. Voilà ce que je veux dire. Donc s'il y a ce débat, c'est qu'il faut qu'on uniformise, que le monde soit de la, on fait les méthodes sociologiques, ou bien on fait les méthodes linguistiques, ou bien on fait les méthodes de lettres. C'est clair, mais si il y a trois écoles. Ça veut dire que si vous voyez ce tâtonnement, ce n'est pas parce que les élèves ont raison, mais c'est parce qu'il y a des réalités dans la pratique. Mais sinon, la méthodologie, elle est unique. Elle est universelle. Le débat ne peut se poser qu'au niveau des élèves qui ne sont pas dans le bain. Mais les enseignants savent que la méthode est universelle. Aucun enseignant, au risque de conduire ses élèves à l'échec, ne peut se tailler une méthodologie. Parce que la preuve, au bac, je ne corrige jamais mes élèves. J'enseigne à Niamey, je pars corriger l'année dernière à Madawa. Donc ça veut dire que je ne corrige pas mes élèves. Je pars trouver des élèves qui ont été enseignés par des collègues censés avoir la même méthode. Voilà pourquoi je dis la méthode est universelle. Voilà. Alors c'est pour cela que je dis le plan explicatif, il faut... Parce que souvent les gens qui nous écoutent, quand on dit il n'y a pas d'antithèse, ils vont penser qu'il faut faire une seule thèse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire comprendre qu'il soit une seule thèse, mais il y a toujours deux parties ou trois parties. Voilà ce que je veux dire. Ensuite, les atouts dont il faut disposer pour aborder la dissertation. La dissertation nécessite d'abord la maîtrise de la langue.
C'est-à-dire qu'il faut bien parler la langue française.
Il faut bien parler la langue française, parce que c'est un débat. Quand on dit débat, on ne peut pas débattre lorsqu'on ne maîtrise pas la langue dans laquelle le débat se fait. Là, c'est le premier élément. Deuxième, il faut avoir une culture livresque.
C'est-à-dire avoir beaucoup lu.
Obligatoirement. La dissertation, elle est difficile pour les élèves d'aujourd'hui parce qu'ils ne lisent pas. L'élève qui n'a jamais lu une pièce théâtrale, comment peut-il illustrer? Parce que les atouts, il faut forcément avoir cette culture livresque. Il faut avoir une culture tirée des œuvres lues. Il faut avoir une expérience de lecteur pour mieux faire le débat. Donc, parce que la plupart des sujets demandent l'impression que l'élève a ressentie par rapport au rôle de l'écrivain, par rapport à la lecture, par rapport au danger de l'écrivain, de l'écriture, de la lecture, le rôle, les fonctions principales du roman, de la pièce théâtrale, du conte, de la littérature en général. Mais lorsqu'on n'a jamais lu, on ne peut jamais le faire. Donc, troisième, il faut avoir une capacité argumentative. La capacité argumentative, elle est enseignée à l'école.
L'art de convaincre.
L'art de convaincre. Ça, c'est ça le rôle de l'enseignant. Mais la culture livresque, elle est personnelle. Ça, c'est l'atout personnel. Il faut disposer. L'expression, elle est personnelle. Mais le rôle de l'enseignant, c'est apprendre la méthode. Et dans la méthode, il y a la méthode argumentative. Apprendre à convaincre. Parce que convaincre sous-entend trois niveaux. Expliquer, persuader et convaincre. Donc, il y a des étapes pour arriver à cela et ça doit être enseigné.
Quand le candidat est en face de l'épreuve, on voit qu'il a un grand travail à faire. Au tout début, il s'agit de dégager une problématique. Monsieur Souman Chomsou, comment on dégage une problématique en dissertation littéraire?
Dégager la problématique, c'est enseigner dans la méthodologie de l'enseignement de cet exercice. La problématique, en réalité, c'est le fondement même de cet exercice. L'élève qui rate la problématique a raté. Nous, on appelle ça verbiage. Tout ce qu'il va raconter.
Il va en hors sujet.
Oui, voilà. Donc, tant que la problématique est ratée, ce qu'il va faire là, il est en train de bavarder. C'est un bavard. Donc, il n'est pas en train de faire le travail qui lui est demandé. Et la problématique, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la problématique? C'est l'ensemble des problèmes que suscite le sujet. C'est l'ensemble des problèmes auxquels il faut chercher des solutions. C'est comme nous l'avons dit, le sujet comporte une thèse, c'est-à-dire une opinion d'un auteur. Cette opinion-là, elle doit être d'abord comprise. Qu'est-ce que l'auteur veut dire dans cette citation mise entre guillemets?
Est-ce qu'on peut illustrer cela à travers un exemple, M. Souman Chomsou?
Oui, on peut. Je donne un exemple. Si j'ai, quand Stendhal dit le roman est un miroir que l'on promène le long d'une rue, on met cette phrase entre guillemets, on dit expliquer. Ou bien on dit expliquer, discuter, qu'en pensez-vous? À partir de là, on demande à l'élève de chercher la problématique de ce sujet. Cette phrase de Stendhal, le roman est un miroir que l'on promène le long d'une rue. Cette phrase, elle est facile, elle est compréhensible, mais elle comporte à l'intérieur un problème et une problématique. Le problème, c'est en reformulant cette phrase, qu'est-ce que Stendhal veut dire clairement? C'est ça qu'on appelle problème. La problématique, derrière ce petit problème qu'il a suscité, quels sont les autres problèmes qui viennent s'agreffer? C'est ça la problématique. Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une rue. Il veut dire que comme le miroir reflète l'image d'une rue, de ce qu'on a promené devant, le roman est un reflet de l'image d'une société. Le miroir constitue le reflet de l'image et la rue constitue la société. Donc on sous-entend que Stendhal veut dire en termes clairs que le roman reflète l'image d'une société. À partir de là, quand on demande de faire la problématique, il s'agit de montrer à partir de ce problème-là, est-ce que c'est le seul problème qu'il y a? De montrer en quoi le roman reflète-t-il l'image d'une société? S'il n'y a pas en dehors de cette fonction une autre fonction, comme être le fruit de l'imagination, par exemple. Donc, j'ai trouvé deux problèmes. Une première partie qui va être la thèse à soutenir, c'est ça, la pensée de Stendhal. Je vais soutenir, comme Stendhal l'a dit, que le roman reflète l'image d'une société. Et deuxièmement, montrer, c'est ça, l'antithèse, que le roman peut être le fruit d'une pure imagination, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la réalité, et une synthèse qui doit réconcilier. Et la plupart des cas, nos élèves considèrent que la synthèse est un bilan qui ramène les deux parties. La première partie, je parlais de réalisme, deuxième, je parlais d'imagination. La synthèse consiste à lier imagination et réalisme. La synthèse est un point d'intersection, c'est-à-dire dans un débat où entre nous deux, il faut qu'il y ait une troisième personne qui viendra nous réconcilier.
Oui.
Donc la synthèse, c'est comme si dans un débat, chacun se tient sur sa position et qu'une troisième personne vient donner raison à nous deux. Donc, dans ce cas précis, la synthèse doit être un point réconciliateur, un point d'intersection entre la thèse et l'antithèse.
Il arrive que l'élève ne connaisse pas la citation qui a été donnée ou que l'élève n'a jamais entendu parler de l'écrivain en question. Par exemple, Stendhal. L'élève peut ne pas savoir que c'est un écrivain français, qu'il est auteur de tel ouvrage.
L'exercice ne demande pas de s'appuyer sur l'auteur pour démontrer la véracité de son argument. Il s'agit seulement de faire appel à ses expériences de lecture pour démontrer l'idée contenue. C'est à lui de montrer qu'il a lu des romans et parmi les romans lus, il a trouvé un certain nombre de romans qui ne reflètent rien que la réalité vécue, qui remettent en scène le vécu quotidien des hommes. Leur mode de vie, leur culture, leur tradition, leurs pratiques religieuses, leurs croyances, c'est leur histoire, leur vie politique, leur vie économique. C'est ça le réalisme.
Monsieur Joseph Aboubakar, vous avez eu à nous expliquer comment on élabore le plan d'une dissertation littéraire. Qu'est-ce qu'une thèse dans une dissertation littéraire? Que signifie l'antithèse et enfin la synthèse pour conclure, comme a eu à l'expliquer Monsieur Souman Chamsou?
Bon, la thèse, c'est une opinion, c'est un point de vue. Même l'antithèse, c'est une opinion, mais l'opinion d'eux. Et la thèse et l'antithèse, la synthèse appartiennent au plan dialectique. La thèse, on défend l'opinion de l'auteur. Par exemple, tout à l'heure, M. Chamsou a parlé du Stendhal. Le roman est le reflet de la vie sociale, de la société. On doit montrer cela dans la thèse. Et dans l'antithèse, on peut montrer les autres fonctions du roman, comme l'imagination, l'évasion, le divertissement. Voilà. Mais il est clair que la thèse doit être subdivisée en plusieurs parties, en paragraphes. Et là, c'est là que les connecteurs logiques sont importants. On les utilise dans la thèse et dans l'antithèse. En termes de l'antithèse, on peut montrer les insuffisances de la thèse ou les limites de la thèse. Donc, ce qu'il faut comprendre, généralement, les élèves, beaucoup de candidats pensent que, forcément, quand on dit thèse, antithèse, c'est la démarche oui et non. Si vous dites oui et non, c'est comme si vous avez dit la porte est à la fois fermée et ouverte. Mmh. Mais dans quelles circonstances remarque-t-on que non, le roman est le reflet de la vie sociale? Et dans quelles circonstances on remarque que non, le roman n'est pas le reflet de la vie sociale? Par exemple, quand vous prenez, il y a ce qu'on appelle des romans réalistes. Là, on peut les défendre, on peut donner, illustrer la thèse en s'appuyant sur ce genre de romans. Les romans réalistes, que ce soit Flaubert ou Gustave Flaubert ou Stendhal lui-même, ou des romans africains, les romans anticolonialistes, par exemple, ce sont des romans réalistes, ou les romans de mère sociale. Vous prenez également dans l'antithèse, il y a des romans d'aventure, des romans purement fictifs. On raconte, par exemple, quand vous prenez Le Petit Prince qui part de planète en planète, d'Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit rien de la société dans ça. Même si, quelque part, il nous donne des leçons, mais il y a des personnages qui ne sont pas des humains. Il y en a. Des personnages surnaturels, on voit, ou des vampires, des fantômes, oui. Donc, vous voyez, il y a des romans, ça dépend. Maintenant, la démarche, c'est de relever, ce n'est pas toujours le nom. Oui, des fois, ça dépend des sujets. Si je nomme, par exemple, si on dit que non, et la lecture est le seul moyen de se cultiver, expliquer et discuter cette affirmation. Le fait de dire le seul, là, suscite déjà les débats. Mmh. C'est le seul moyen. La lecture est le seul moyen de se cultiver. Le fait de dire le seul,
c'est un autre débat. Donc, puisque ça, c'est un moyen, mais pas le seul, peut-être.
Pas le seul moyen, on peut démontrer cela, par exemple. Mais quand vous prenez certains sujets, si on vous dit que la lecture est un moyen, par exemple, j'enlève le seul. La lecture est un moyen de se cultiver. Oui, c'est vrai, la lecture est un moyen de se cultiver. Oui, on ne peut pas dire non, ce n'est pas un moyen de se cultiver dans la vitesse. Vous voyez, on ne peut pas dire non, ce n'est pas un moyen de se cultiver. C'est-à-dire que non, et ce n'est pas la seule source. La culture n'est pas la seule source. Il y a d'autres aspects de la lecture, divertissement, évasion. Il n'y a pas que la culture ou la connaissance qu'on tire de la lecture. Il y a d'autres aspects. Donc, ce n'est pas forcément. Donc, c'est pourquoi on dit que l'antithèse relève les insuffisances ou les limites. Mm-hmm. Maintenant, la synthèse, oui, c'est vrai, M. Chomsky a eu à expliquer que la synthèse, ce n'est pas le bilan, puisque le bilan, c'est dans la conclusion. Mm-hmm. Les gens confondent la synthèse et la conclusion. Les deux aspects, les deux parties n'ont pas le même rôle. Mm-hmm. La synthèse, c'est le dépassement. Elle fait le dépassement et elle a le rôle de réconciliation, par exemple, des deux points de vue, des deux approches apparemment contradictoires. Donc voilà, c'est la réconciliation. Et voilà ce que je peux dire.
Est-ce que la synthèse est obligatoire, M. Joseph Aboubouka?
Elle est nécessaire, la synthèse. Parce qu'on voit que quand on fait bien la thèse, on rédige, on fait la synthèse, on voit qu'il y a quelque chose qui manque quand même. Il y a quelque chose qui manque. Alors, il faut faire une transition obligatoirement et rédiger la synthèse. Mmh. Oui, oui. Mais c'est en discussion, généralement. Là, c'est une autre méthode en discussion. Comme c'est 2 heures, généralement, nous laissons passer. On tolère l'enfant s'il ne fait pas la synthèse. On dit qu'en 2 heures, en tout cas, beaucoup de profs nous le disent, et de collègues, s'il ne fait pas la synthèse, on tolère cela s'il ne l'a pas fait.
Ça, c'est en discussion.
C'est en discussion.
Alors qu'en dissertation, c'est 4 heures.
Nous avons 4 heures, c'est 4 heures.
Bien sûr.
Dissertation, oui.
Merci, voilà. M. Joseph Aboubouka. M. Soumane Chamsou, il a eu à parler justement des connecteurs logiques. C'est vrai, c'est important de l'évoquer. Et quel est le rôle des connecteurs logiques dans une dissertation littéraire?
Avant de répondre, je vais ajouter ce que mon collègue a dit. Aboubouka a bien répondu, c'est parce que c'est sa réponse est très pertinente, il a dit nécessaire, parce que il a évité le piège.
Ça veut dire que l'élève est obligé de faire une synthèse.
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a évité le piège.
Bien sûr.
Vous avez voulu qu'il vous dise que
facultatif... Non, en fait, c'est qu'il y a des élèves qui disent que la synthèse est dans la conclusion.
Non, la synthèse n'est pas dans la conclusion. Et c'était en année de licence avec le docteur actuellement professeur Hachette Tchendo, il avait eu ce débat. On était en année de licence. Le problème, c'est que certains étudiants, dans certains manuels, ils ont vu que la synthèse est facultative.
Voilà.
Donc, certains manuels ont dit la synthèse est facultative. Elles disent qu'elle est obligatoire chez moi.
Mais où est-ce que les élèves apprennent alors que c'est facultatif?
Non, parce c'est dans des documents.
C'est dans des documents.
J'ai vu des documents.
De français.
De français.
Où on dit on que c'est facultatif.
Que la synthèse, elle est facultative. Mais nous, on a vu le document. On
et
a
ces
amené,
documents et sont enseignés dans le programme officiel.
C'est des documents des annales françaises. C'est, mm-hmm. Le plus souvent, ce ne sait pas chez nous. Donc, c'est, même aujourd'hui, certains professeurs disent que c'est facultatif. Moi, je dis que c'est obligatoire tant que c'est moi
officiellement,
qui enseigne.
Officiellement, qu'est-ce qui est recommandé?
Non, en réalité, la synthèse, Aboukar l'a si bien dit.
Elle est obligatoire.
Elle est obligatoire en dissertation.
En dissertation.
En discussion, les gens tolèrent.
Mmh, très
la
bien.
Synthèse, en discussion, quand l'élève arrive à faire une thèse, une antithèse, c'est déjà bon.
Mmh.
Mais en dissertation, tant que la synthèse n'est pas faite, le travail est inachevé. C'est pour cette raison, j'ai dit, sa réponse, elle est si pertinente parce que beaucoup de gens attendent une réponse à cette question, mm-hmm. qu'on dise que la synthèse est facultative.
Merci. On va aller à présent sur les connecteurs logiques, puisque nous sommes vers la fin de cette
émission. Les connecteurs logiques, pas seulement en dissertation, partout, dans tous les exercices scolaires, en français, que ça soit résumé, que ce soit commentaire composé, que ce soit discussion, que ce soit dissertation. Alors, les connecteurs logiques, ce sont eux qui constituent les nœuds même de cette argumentation. Les connecteurs logiques sont des mots de liaison qui permettent de relier des pensées, des mots de liaison, comme on appelle des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination, des locutions adverbiales.
Voilà.
Hein? C'est cela qu'on appelle les connecteurs logiques. Ce sont des mots qui permettent de voir l'enchaînement hein, de l'argumentation. Mm-hmm. Pour qu'on sente qu'il y a une évolution, mm-hmm. il faut forcément les connecteurs logiques. Et en matière de dissertation, il y a plusieurs types de paragraphes. Il y a plusieurs types de raisonnements. Il y a le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, le raisonnement par opposition. Donc, en fonction du type de plan, l'élève doit forcément utiliser les connecteurs logiques.
Mm-hmm.
Il y a des raisonnements dans lesquels il faut les articulations argumentatives. Hein, mais, cependant, hein, toutefois, néanmoins,
par contre,
mm-hmm. il y a des raisonnements dans lesquels on a besoin des organisations temporelles. Mm-hmm. Hier, autrefois, avant, maintenant, actuellement, hein, présentement, bientôt, hein, à l'avenir. Ça veut dire que les connecteurs logiques, tout dépend du type de paragraphe.
Mm-hmm.
Donc, ils sont fondamentaux dans un paragraphe. Un paragraphe argumentatif ne peut être rédigé sans connecteur logique. C'est du sel dans la sauce. Quand vous voyez en dissertation, un élève de terminale ne peut pas le faire. Il a raté la seconde et la première.
Mm-hmm.
Le programme est conçu de telle sorte que tout doit être fait dans les classes antérieures avant d'arriver en terminale. Malheureusement, le système éducatif actuel, même l'État le veut, on veut sauver seulement les classes d'examen. Alors qu'on laisse l'élève rater la base de seconde, rater la base de première, maintenant il arrive en terminale, on veut qu'il admette. Les programmes ne sont jamais finis dans les petites classes. C'est les classes d'examen que nous, enseignants, on fait rattrapage. Parce qu'on veut qu'on dise que j'ai fini mon programme. Mais en seconde, je ne peux pas faire rattrapage. En première, je ne peux pas rattrapage. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas un résultat immédiat. C'est en terminale que quand l'élève va, il échoue, il pleure. Mais ça veut dire que les gens oublient que l'enseignement, c'est un enchaînement logique. Quand ça ne va pas ici, ça ne va pas si haut.
Vous avez été plusieurs fois correcteur au bac. Quels sont les critères sur lesquels tous les correcteurs des épreuves de français se basent pour noter les candidats?
Pour noter, le plus souvent, c'est une IP. Ce n'est pas un professeur individuellement qui fait. Souvent, c'est trois professeurs par discipline qui corrigent. Ces professeurs font la correction de l'épreuve ensemble.
Mmh.
Ils harmonisent pour que tout le monde ait le même sens du sujet.
Mmh.
À partir de là, on élabore un barème de notation. Et ces barèmes-là sont basés sur le niveau d'expression, sur la forme, c'est-à-dire la méthodologie appliquée, l'organisation, une dissertation sans introduction, une dissertation sans conclusion, une dissertation sans synthèse, une dissertation où problématique n'est pas trouvée. Donc, il y a un barème qui est établi par l'IP de correction. Donc, ces barèmes, ces critères sont d'abord la méthodologie. Un élève qui ne sait pas introduire, parce qu'on enseigne une méthode d'introduction universelle. L'introduction comprend trois parties, quel que soit l'établissement, les trois parties sont enseignées de façon universelle. Alors, l'élève qui ne maîtrise pas ça, on sent que cet élève ne rentre pas en classe. Ça veut dire que ça, c'est le rôle de l'enseignant. Vous savez, j'ai dit, le critère, le contenu n'est pas si important que la méthodologie qui est enseignée. Parce que
quand l'élève respecte la méthodologie, ça veut dire on comprend au moins qu'il a suivi le cours et qu'il l'a assimilé. Maintenant, le reste, c'est
il peut ne pas comprendre le sujet, mais lorsque la méthodologie qui est enseignée par le professeur est appliquée, il a bien fait. Donc souvent, le contenu importe peu.
Les autres critères?
Le niveau d'expression. Et il y a des élèves de terminale qui ne peuvent pas faire une phrase correcte. Il y a des élèves de terminale qui ne mettent pas verbe conjugué dans une phrase. Donc, comment est-ce qu'il y a tout... On parle de confusion. Là, il n'y a pas d'expressivité. Qu'est-ce qui explique? Donc, l'expression. Il faut que ça soit compréhensible, ce qu'il dit. C'est ça, les gens appellent faute de grammaticale et orthographique. Donc, méthodologie, maintenant, la connaissance livresque. Ça veut dire que l'idée que vous avancez doit être soutenue par une œuvre littéraire obligatoire. Donc, avec le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre. Et maintenant, l'exemple tiré qui est en rapport avec votre argument.
Monsieur Joseph Aboubakar, une dernière question. Certains élèves se plaignent souvent de leurs notes en français et pensent que les enseignants sont trop rigoureux à leur égard. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est une question difficile. Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec un ancien qui me disait que non, en français, ce n'est pas facile la notation. Et des fois, mais... Il ne faut pas penser qu'il y a de l'arbitraire. Malgré tout, il y a de l'objectivité du moment où il y a une méthode et des critères d'évaluation. Mon collègue a rappelé ces critères-là, la méthodologie, l'expression, la cohérence des idées et la présentation de la copie. La présentation est importante, par exemple, quelle que soit la maîtrise de la méthode. Si l'élève écrit mal, par exemple, un correcteur qui ne voit pas bien, c'est difficile si l'écriture est illisible.
Surtout que vous avez beaucoup de copies à corriger.
Oui, donc il faut tenir compte de tous ces critères, vous voyez. Et bon, il y a quand même les barèmes qui sont généralement fixés, adoptés à l'unanimité par l'UP avant la correction des copies au bac. Mais maintenant, il ne faut pas penser qu'il y a de l'arbitraire. Bon, la rigueur, je prends mon cas, je suis rigoureux en ce qui concerne l'expression. Quand je prends une copie où la ponctuation n'est pas respectée, et qu'est-ce qui est aujourd'hui à la mode chez les élèves? C'est de vous faire une introduction sans virgule. Ils vont faire taire, c'est à la fin que vous allez voir un point. Un respect de la ponctuation. Et ils ne commencent même pas par une lettre majuscule. Donc vous voyez, cela veut dire que la base est ratée. Oui. Surtout les bases grammaticales. Donc vous voyez, voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Monsieur Joseph Aboubakar, nous vous remercions. Monsieur Soumane Chamsou, pourquoi est-il important de savoir faire une bonne dissertation en dehors du cadre scolaire, c'est-à-dire dans la vie courante?
La dissertation, je l'ai dit en classe, j'ai dit toujours à mes élèves, quand on vous enseigne les trois exercices du bac, résumé, discussion, dissertation, commentaire, ne pensez pas que pour avoir une note, on vous donne des aptitudes dans la vie professionnelle, dans la vie courante. Quand on sait disserter, on sait convaincre. J'ai dit, on apprend par dissertation à apprendre à convaincre sans avoir raison.
L'art de convaincre sans avoir raison.
J'ai dit, c'est ça qu'on vous apprend. Lorsque vous maîtrisez la dissertation, quand vous parlez, vous êtes obligé d'apporter des preuves, même si elles sont imaginaires. Et les gens qui vont vous écouter, votre interlocuteur est obligé de croire, ne serait-ce que pour un laps de temps. C'est ça qu'on apprend.
Et ça veut dire qu'à ce niveau, l'élève, il est capable de convaincre vite l'autre, même lorsqu'il n'a pas raison,
Même s'il n'a pas raison, s'il maîtrise la dissertation, il peut convaincre. Parce que la dissertation est basée sur deux critères. L'argumentation, c'est une méthode qui est liée à la rhétorique de la thèse antique, l'art de convaincre. Donc ça veut dire que c'est cela d'abord le fondement de cet exercice, convaincre, apprendre à convaincre. Deuxième, ça vous apprend à organiser facilement vos idées dans la vie courante. Aujourd'hui, un journaliste, s'il ne sait pas disserter, si on l'envoie en reportage, il ne peut pas facilement faire. Parce que dans ce qu'il est en train de voir, écouter, facilement savoir faire un compte-rendu, ça nécessite...
C'est un peu difficile, il faut savoir agencer, savoir de quoi il s'agit.
Alors, donc c'est ça qu'on apprend. La dissertation, c'est apprendre des aptitudes qui sont dans la vie courante utilisables. Pas seulement pour avoir le bac, pas seulement pour avoir un diplôme, mais c'est une aptitude qu'on cherche. On n'enseigne pas les élèves à pouvoir avoir des notes. Je le dis en classe, je dis moi, quand j'enseigne, ce n'est pas pour que vous ayez un diplôme, mais que vous ayez une aptitude.
On le voit dans la vie courante justement, oui. Des gens qui ont envie de parler, qui ont des arguments très solides, mais qui n'arrivent pas à le dire.
À le dire, oui. J'ai un camarade, il est actuellement ingénieur en électricité. Il me dit, il veut que je l'apprenne à parler. Parce que son problème, il ne peut pas enseigner. On l'a amené à enseigner, il était obligé de quitter. Il dit qu'il ne sait pas comment parler devant les gens. Alors, ça veut dire que il a appris les connaissances mathématiques, il sait, il est fort. PC, il est fort. Mais on ne lui a pas appris à disserter. Disserter, c'est savoir réfléchir sur un débat, sur un thème, sur une actualité, une réalité. Et c'est ça qu'on apprend aux élèves. C'est ça l'objectif de cet enseignement.
Monsieur Souman Chamsou, avant de terminer, quel conseil donneriez-vous aux candidats qui auront à affronter cette épreuve de français dès le premier jour des épreuves écrites du baccalauréat 2019 qui vont débuter au Niger le 10 juillet prochain? Rappelons qu'en français, les candidats ont à chaque session du baccalauréat jusqu'à 3 sujets au choix, les deux autres étant des sujets de commentaires composés et de résumés discussion.
Le conseil que je donne aux élèves, c'est tout le temps, je le répète, j'ai dit aux élèves, on ne part jamais avec l'idée que je veux partir faire dissertation. Parce qu'il se peut que le sujet de dissertation soit le plus difficile à comprendre. Il faut apprendre les 3 exercices, obligatoirement avant de partir. C'est après avoir appris les 3 exercices qu'il faut partir, j'ai dit, on a choisi de faire dissertation. Là, il s'agit de lire plusieurs fois pour comprendre, analyser, faire une analyse du sujet. C'est cette analyse est apprise dans toutes les classes. Les enseignants apprennent à l'élève comment analyser le sujet de dissertation. Mais le plus souvent, dans la pratique, les élèves ne font pas cette analyse parce qu'ils voient que c'est une perte de temps. Le seul conseil, c'est que chacun puisse lire, faire l'analyse, prendre le temps, ne pas se jeter sur le sujet pensant l'avoir déjà vu, parce que dans les sujets, on peut amener la même citation, mais changer de consigne. C'est ça le problème en dissertation. On peut voir, par exemple, la phrase que je venais de dire de Stendhal, on peut amener cette phrase avec une autre consigne, qui peut amener un autre type de plan. Donc c'est pour cette raison que l'élève ne doit pas se cantonner à penser que j'ai déjà traité le sujet. Il faut analyser pour voir si on n'a pas changé quelque chose.
Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème la dissertation littéraire, comment ça marche. Nous retenons que la dissertation littéraire est un exercice dont la maîtrise est nécessaire à tout élève candidat au baccalauréat, surtout en ce qui concerne les candidats au baccalauréat série littéraire. La dissertation est aussi quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir être capable de se défendre dans la vie courante, car la dissertation, c'est aussi l'art de convaincre. Nous souhaitons bonne chance à ces candidats au nombre de plus de 64 000 enquêtes de ce premier diplôme universitaire cette année sur l'ensemble du territoire national. Nous étions en compagnie de M. Souman Chamsou, enseignant de français au complexe d'enseignement général sur les examens de Niamey, et M. Joseph Aboubakar, enseignant enseignant de français également dans un lycée privé à Niamey qui était au téléphone. Merci à vous tous pour votre participation à ce forum du studio Kalangou. Merci également à vous qui nous avez suivis, chers auditeurs. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation. À la technique, Seine Isaka. Passez une excellente soirée et au revoir.